Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Israël-Gaza, 6 mois après, le monde a-t-il changé? Et en Turquie, est-ce le début de la fin pour Erdogan? Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le tout dernier numéro, celui d'avril, est consacré au projet européen à l'épreuve. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales pour une approche subjective des relations internationales, c'est le titre de votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Hervé.
Éditorialiste au Monde, Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, titre de votre dernier livre chez Stock. Et Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Vous l'avez publié il y a quelques semaines chez Talendier. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les résultats des élections municipales en Turquie dimanche dernier. Victoire de l'opposition kémaliste, défaite de l'AKP, le parti au pouvoir, et donc des aveux pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Simple péripétie pour ce dernier, ou bien est-ce le début de la fin? Nous en débattrons. Mais tout de suite, notre premier sujet.
Israël en état de guerre, le pays s'est réveillé ce matin sous une pluie de roquettes palestiniennes, offensive massive et surprise du Hamas depuis la bande de Gaza. Des dizaines de blessés en Israël, des centaines côté palestinien et puis on parle aussi de ces civils israéliens pris en otage. On est sur place avec notre correspondant sur le terrain tout près de la bande de Gaza.
Oui Flore, je suis dans une station service au dernier checkpoint sur la route qui mène au sud vers la bande de Gaza. Il y a ici de la fumée noire et une odeur âcre après le déluge de roquettes qui ont embrasé les champs autour d'Ashdod. Au loin, on entend régulièrement des explosions. Gaza est bombardé. Il y a aussi des ambulances qui vont et qui viennent entre la zone qui nous est interdite et les hôpitaux les plus proches.
Voilà, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 7 octobre 2023. Le Hamas attaque Israël. Attaque massive. Des centaines d'assaillants investissent le territoire israélien et sèment la terreur et la mort sur leur passage. Quelques 1200 civils sont tués. Environ 250 personnes sont prises en otage. L'État hébreu n'avait jamais subi une telle agression. Le pays est sous le choc, comme une partie du monde. Les violences relatées sont insoutenables. En représailles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet d'anéantir le Hamas, organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Assez vite, pourtant, Israël va passer du statut d'agressé à celui d'agresseur, du moins le gouvernement israélien. Sa riposte militaire, bombardement massif et opérations terrestres d'envergure et le blocus du territoire provoquent de nombreuses victimes civiles. Plus de 33 000 morts à ce jour, selon le Hamas. La famine s'installe, les condamnations fusent. 6 mois après le cataclysme du 7 octobre, Israël paraît plus isolé que jamais. Le pays a fait l'objet d'une procédure devant la Cour internationale de justice, lui enjoignant d'empêcher les actes de génocide. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU réclame un embargo sur les armes qui lui sont destinées. Quant à l'allié américain, il perd patience. En s'abstenant au Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mars, les États-Unis permettent l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza. Alors avant le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien semblait avoir été mis de côté. L'onde de choc provoquée par son retour violemment spectaculaire est à la fois locale, régionale et globale. Est-ce à dire que 6 mois après, le monde a changé? Thomas Gomard, si on se reporte 6 mois en arrière, comme on le faisait au tout début donc, de cette émission avec cette archive, ce qui paraît le plus improbable aujourd'hui, 6 mois après, c'est l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Comment est-ce qu'en 6 mois, on est passé d'un pays attaqué à un pays qui aujourd'hui fait figure, pour un certain nombre de pays, en tout cas, d'agresseurs?
Ouais, je vois 3 raisons principales pour ce changement, d'une certaine manière, dans la compassion. Effectivement, les attaques du 7 octobre ont frappé l'opinion par leur caractère inattendu. C'est du terrorisme militarisé sur le territoire d'Israël, à peu près 1400 morts le même jour dans les conditions que l'on sait, et un soutien apporté à Israël dans son droit à la légitime défense immédiat par 5 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France. Et puis, 6 mois après, effectivement, vous l'avez souligné dans votre introduction, il y a cet isolement d'Israël qui s'explique, à mon avis, principalement par la férocité de la réponse d'Israël et de Tsahal. le fait que la réaction au terrorisme est toujours ou de la sous-réaction ou de la surréaction. Et qu'à l'évidence, les Israéliens ont choisi la surréaction. Ça conduit au deuxième point, c'est-à-dire qu'à mon avis, les objectifs affichés par Israël sont irréalistes, l'éradication du Hamas, et ils se font au prix de pertes civiles dont vous avez rappelé l'ampleur, suscitant au fond une réprobation de plus en plus unanime, avec des États-Unis qui sont en train de changer de pied. Avec, je pense aussi, une opinion qui modifie son attitude vis-à-vis d'Israël. Donc ça fait deux éléments principaux, si vous voulez. À mon avis, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est les effets régionaux en fait de cette déflagration, avec à mon sens un pays qui s'en sort renforcé de cette situation, c'est l'Iran. Puisque l'Iran soutient le Hamas, l'Iran soutient les Houthis également, lesquels font un lien direct entre leurs attaques contre des navires et la cause palestinienne. Et donc on est aujourd'hui dans une situation qui pose la question tout simplement aussi de l'avenir politique du gouvernement Netanyahou, lequel est contesté de plus en plus fortement. Mais c'est une contestation en même temps qui, en Israël, ne franchit pas un certain seuil qui est celui de l'unité nationale pour un pays se considérant dans une guerre existentielle.
Alors on reviendra dans quelques minutes sur les conséquences régionales, mais avant cela, pour rester sur le début de votre intervention, Thomas Gomard, et sur cet effritement du soutien à l'égard du gouvernement israélien, et notamment un effritement du côté de son principal allié, à savoir les États-Unis, Anne-Lorraine Bujon. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer profondément? Je rappelle donc fin mars, les États-Unis s'abstiennent lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, abstention qui permet l'adoption d'une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Est-ce que ça, il faut y voir un événement politique majeur et peut-être aussi une forme de tournant?
Alors, je pense que cette abstention des États-Unis au moment du vote pour demander à nouveau un cessez-le-feu, elle a effectivement une grande portée symbolique, mais c'est une abstention. En un sens, les États-Unis ne peuvent pas encore aller plus loin. De même que les débats qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, on a vu d'abord une certaine jeunesse, plutôt dans les campus, prendre fait et cause pour les Palestiniens, mais aussi dans certains États maintenant où il y a une population arabo-musulmane américaine. On voit aussi des mouvements d'opinion en faveur des Palestiniens qui n'auraient pas été aussi visibles ou audibles autrefois. Et puis il y a maintenant un débat sur la vente d'armes qui montre bien qu'il faut distinguer entre les discours et les actes des Américains. Oui, les choses évoluent, oui, il y a des inflexions, mais sur le fond d'une alliance des États-Unis avec l'État d'Israël, si vous voulez, qui est vraiment un des axes structurants de la politique étrangère depuis au moins les années 70. Et ça n'est pas une chose qu'on peut faire bouger en une nuit, ni même en une semaine, ni même en 6 mois, et avec cette quantité de destruction et de morts. Donc moi, ce qui me semble, c'est que le président Biden et son ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, sont en réalité assez constants dans leur attitude depuis le 7 octobre, c'est-à-dire soutien à Israël, mais pression maintenant pour arrêter cette guerre de destruction qui est menée aussi au mépris du droit de la guerre, du droit international.
Mais pression qui pourrait aller jusqu'à un vote d'une résolution, c'est-à-dire non plus une abstention, mais adopter une résolution qui serait défavorable au gouvernement israélien?
Alors, il y a l'attitude des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais j'ai tendance à penser que plus important est le débat interne sur en fait l'aide matérielle effective que les États-Unis continuent d'apporter à Israël. Et donc maintenant, vous voyez dans les journaux, on vous dit les bombes qui tombent sur Gaza en ce moment, c'est précisément le type d'armement que les États-Unis livrent à l'État d'Israël. Donc moi, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder pour voir si il peut y avoir un vrai tournant. Mais encore une fois, on ne fait pas changer un axe aussi fondamental du jour au lendemain.
Inflexion davantage que tournant, Bertrand Badie.
Oui, j'ai un sentiment un petit peu différent, enfin qui n'est pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit par les deux précédents intervenants, mais qui voit les choses peut-être différemment. En fait, cette séquence est un échec redoutable pour la diplomatie américaine et gérée pour la puissance américaine. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi ? Ben, parce que on voit le secrétaire d'État Blinken 6 voyages au Proche-Orient, ça fait presque le rythme de 1 par mois. Le président des États-Unis qui s'est rendu une fois, qui n'arrête pas d'être au téléphone, il doit avoir une note téléphonique absolument faramineuse, n'est-ce pas ? Et finalement, une capacité de pression, terme que vous employez, qui est extrêmement réduite, qui se double d'un isolement réel. Je pense que les États-Unis aujourd'hui, paradoxalement, sont encore plus isolés que ne l'est Israël, qui ne l'est pas tant. Pourquoi ? Eh bien parce que le vote au Conseil de sécurité est quand même assez remarquable et significatif, que la superpuissance se retrouve seule dans une attitude de surcroît d'abstention, alors que les 14 autres avaient un vote différent, est déjà une indication paradoxale de ce qu'est et de ce qui reste de l'hégémonie américaine sur le système international. Je pense que les États-Unis vivent cette séquence comme un double cauchemar, dans la mesure où se trouve démontrée chaque jour leur impuissance face à leurs alliés, face à d'anciens alliés qui ne le sont plus. C'est-à-dire, côté arabe, il y a une véritable hémorragie. Pensez à l'attitude nouvelle de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, autrefois alliés inconditionnels des États-Unis. Pensez effectivement à l'Iran, autrefois le Shah était le pilier de l'influence américaine dans la région, et pensez à la Turquie, je pourrais ainsi continuer. Donc c'est un échec gravissime, et la preuve que les États-Unis n'ont pas le levier d'Archimède dans le conflit proche-oriental, sont pratiquement dépouillés de tout moyen d'agir.
Alors peut-être n'ont-ils pas envie d'utiliser tous les moyens qu'ils ont à disposition, parce qu'ils en ont.
S'ils n'ont pas envie d'utiliser tous les moyens et que par ailleurs, sans utiliser ces moyens, ils ne peuvent rien faire, c'est quand même une indication, on ne peut plus clair, d'impuissance. Alors que Israël, il faut quand même pas oublier une chose très simple. Quel État dans le monde serait autorisé à faire 33 000 morts, au moins, plus, et dans ces 33 000, probablement 25 000 femmes et enfants, sans la moindre sanction de la part de quiconque dans la communauté internationale? Qui aurait ce privilège? Ce qui prouve que c'est pas un isolement tellement fort. Alors, entre des pressions rhétoriques des États-Unis et la certitude de l'impunité, effectivement, je trouve qu'Israël se trouve dans une position assez confortable.
Sylvie Kaufmann, vous êtes d'accord avec ça? C'est davantage l'impuissance américaine que l'isolement israélien qui caractérise ces 6 mois qui viennent de se dérouler.
C'est-à-dire, Bertrand Badi parle d'échec redoutable de la diplomatie américaine. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Mais c'est aussi un échec redoutable de tout le monde. C'est-à-dire, si vous faites le bilan de ces 6 mois, donc vous avez effectivement l'impuissance, la faiblesse de la diplomatie américaine, vous avez la passivité des Européens, vous avez l'impuissance de l'ONU, ça on le savait déjà, mais enfin là on en a une fois de plus la preuve. On a la passivité des pays arabes, dont aucun des 6 pays arabes qui entretient des relations diplomatiques avec Israël ne les a rompus, à ma connaissance, ou n'a rappelé son ambassadeur. Donc, on a de ce côté-là aussi une inertie qui est coupable. On a l'absence des autres grandes puissances. On a un jeu trouble de la Chine et de la Russie et d'autres dans ce conflit. On a l'échec, évidemment, de la stratégie israélienne, dont on ne sait pas trop en quoi elle consiste, finalement. Donc, en tout cas, l'objectif primaire qui est d'éradiquer le Hamas, de toute évidence, n'a pas été atteint au bout de 6 mois, puisque il y a 4 mois, je crois, 4 mois après avoir essayé de nettoyer ce grand hôpital Al-Shifa, qui était parce qu'il était utilisé en principe, enfin c'est ce qui était l'explication par comme quartier général du Hamas. Les forces israéliennes sont obligées d'y revenir pour le démolir complètement. Donc ça On voit bien que chaque fois, le problème se recrée là où on pense qu'il a été supprimé. Donc, et l'autre résultat qu'on a finalement, c'est la possibilité d'une extension du conflit avec cette guerre derrière la guerre, en fait, qui est celle avec l'Iran, d'Israël et de l'Iran. Et donc, cette attaque qui a eu lieu cette semaine d'Israël contre le consulat d'Iran à Damas et au cours de laquelle, en Syrie, au cours de laquelle ont été tués 3 ou 4 généraux iraniens. Donc, l'Iran a promis de riposter. On verra comment ça se passe. Il y a cette autre dimension qui est que est-ce que Israël et l'Iran veulent vraiment en venir à une guerre beaucoup plus étendue. Mais enfin, autre dimension. Oui,
est-ce que ça, Sylvie Kaufmann, ce tableau que vous brossez, ça veut dire qu'il n'y a que des perdants?
Pour l'instant, on ne voit pas où sont les vainqueurs, en tout cas. Je ne vois pas où sont les vainqueurs. J'aurais beaucoup de mal à en identifier. Alors, effectivement, c'est très intéressant ce qui se passe, la conséquence de ce jeu, si je peux qualifier ça de jeu, mais de ce qui se passe entre les États-Unis et Israël. On voit bien à quel point Biden est coincé et comment il évolue petit à petit, mais sans jamais déclencher le vrai levier qui est celui de l'aide militaire, ou au moins de conditions à apporter à cette aide militaire. Et ça, il n'y arrive toujours pas, alors qu'on voit le soutien électoral qui s'effrite, qu'il risque même peut-être de jouer son élection dans cette affaire. Donc, c'est vrai que lui aussi a certainement une des raisons qui le pousse à cette immense prudence et cette immense retenue vis-à-vis d'Israël, c'est la crainte de l'embrasement du conflit depuis le début, ça c'est certain. Mais là, on va peut-être y arriver. Donc, c'est un bilan absolument terrible où on ne voit pas la stratégie de sortie. Israël n'en a pas. Alors, il y a ce qui se passe en Israël, en revanche. Vous savez, dans les conflits, on se demande souvent, est-ce qu'il y a un moment où, dans les conflits qui s'enlisent, est-ce qu'il y a un moment où il y a un événement qui fait tout basculer, comme par exemple le massacre de Srebrenica dans le conflit bosniaque et là, je me suis demandé si cette attaque contre les humanitaires de World Central Kitchen, il y a cette ironie qu'il faille que ça soit 6 étrangers qui soient tués pour que tout d'un coup, vraiment, on s'émeuve réellement ou on essaye de bouger. Je me suis dit, est-ce que ça peut faire basculer? Ça fait un petit peu bouger les lignes aux États-Unis. Mais en Israël, on voit bien que les choses sont encore très figées. C'est vrai que la majorité dans les sondages, la majorité des Israéliens souhaitent le départ de Benjamin Netanyahou, mais je crois que les sondages disent que 88% des Israéliens sont toujours pour la poursuite des opérations militaires, y compris à Rafah. Donc là, on a quand même une situation, malgré ces manifestations, qui reste très, très figée.
Pas de vainqueur, mais vous nous disiez quand même tout à l'heure, Thomas Gomard, l'Iran, à la faveur de ce conflit, a repris une position, si ce n'est favorable, mais enfin en tout cas moins isolée peut-être qu'elle ne l'était auparavant.
Je ne sais pas si devant un tel champ de ruines on ne veut pas être vainqueur, mais je pense qu'il y a quand même deux pays, si on raisonne par rapport à des logiques de puissance étatique, il y a deux pays qui bénéficient du 7 octobre. Donc il y a l'Iran, pour les raisons précédemment évoquées, le fait aussi que l'Iran réprime très sévèrement en interne, mais accélère son programme nucléaire et sent bien que il dispose aujourd'hui de moyens d'influence au-delà du Proche et du Moyen-Orient. L'Iran devient un acteur de la sécurité européenne en soutenant la Russie. Ça me conduit justement au deuxième point, qui est le 7 octobre bénéficie à la Russie sur deux aspects. D'abord, ça a créé un effet d'éviction du sujet ukrainien de l'agenda international, même si ça reste évidemment un sujet très, très important. Mais il y a eu un déplacement d'une certaine manière des ressources politiques après le 7 octobre. Et puis surtout, ça permet à la Russie d'illustrer son discours sur le double standard, c'est-à-dire cette idée sur laquelle il y a des pays qui sont sanctionnés et des pays qui ne le sont pas. Et effectivement, de ce point de vue-là, je pense que dans l'explication du changement de compassion, il y a aussi le fait que l'attitude d'Israël en Cisjordanie, la poursuite de la colonisation, avec les moyens que l'on sait, fait l'objet d'une réprobation quand même de plus en plus exprimée. Elle l'a été très peu, en fait, auparavant. Elle l'est davantage. Et en fait, je pense que ce que ça traduit, c'est le fait que le gouvernement Netanyahou envoie un signal au monde qu'il ne veut pas de solution politique. C'est ça, en fait. C'est une sorte de... Ce que propose, au fond, Netanyahou, c'est une sorte de poursuite de guerre permanente qui justifie l'organisation du pouvoir en Israël et qui le permet, et qui lui permet, jusqu'à quand, c'est la question, de se maintenir au pouvoir.
Bertrand Badi.
Oui, je vais relancer mes désaccords amicaux avec Thomas. Je ne vois pas l'Iran, ni la Russie, d'ailleurs, comme gagnant dans cette affaire. L'Iran est très paralysé, hein, paralysé par une société civile qui échappe de plus en plus au contrôle du gouvernement de la République islamique, qui est un pouvoir affaibli, et l'Iran a beaucoup de mal, pour prendre un cas tout à fait immédiat, à trouver une réaction à l'attaque que l'armée israélienne a lancée contre un bâtiment diplomatique iranien en Syrie. Parce que c'est très très difficile de jouer ce jeu où il faut s'opposer sans être véritablement belligérant. Je dirais, à la limite, l'Iran est exactement sur le conflit israélo-arabe dans la position de l'Union européenne sur le conflit ukrainien, c'est-à-dire co-belligérant, non-belligérant. Et ça, c'est une attitude qui est extrêmement coûteuse, parce que difficile à tenir, et aux revenus incertains. Je ne crois pas non plus que la Russie soit gagnante dans cette affaire, parce que la Russie avait énormément investi dans la normalisation de ses relations avec Israël. Jouant la carte du leadership du Sud, la Russie est contrainte de modérer ce réalignement ce rapprochement avec Israël, sans véritablement gagner grand-chose en échange. En revanche, je crois qu'il y a deux gagnants et un perdant. Il y a un gagnant à très court terme, c'est Netanyahou. C'est-à-dire, cette guerre lui a permis d'échapper à la justice, d'échapper à de nouvelles élections, et, comme le suggérait Sylvie, a créé un très curieux consensus avec l'opinion publique israélienne qui majoritairement le déteste, mais qui se retrouve avec lui dans l'idée qu'il faut poursuivre la guerre. C'est-à-dire, les intérêts de Netanyahou et les aspirations de la grande majorité du peuple israélien vont dans le même sens, ce qui consolide la position de Netanyahou, ce qui est absolument contradictoire, mais vrai.
Ça, c'est le vainqueur à court terme.
À court terme. À long terme, alors, je vais peut-être étonner, voire choquer, mais il faut bien comprendre que c'est un raisonnement à froid. Moi, je pense que loin d'être éradiqué, le Hamas a vu son statut renforcé. Il est renforcé parce que des sondages, alors je suis d'accord, les sondages, hein, que valent-ils, mais indique qu'il y a une majorité de Gazaouis qui soutiennent le Hamas, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'au 6 ou 7 octobre, n'est-ce pas ? Qu'il y a une solidarité dans la souffrance et la rage, je dirais, et que, surtout, le Hamas, exactement comme le FLN après la bataille d'Alger, c'est exactement la même situation, gagne une stature internationale. On entend même le porte-parole du département d'État ou de la Maison-Blanche faire état des espoirs suscités par le dernier communiqué du Hamas, ce qui est absolument ahurissant.
C'est-à-dire même si le pouvoir, il est quand même du côté de l'autorité palestinienne, qui vient de nommer un nouveau gouvernement,
oui,
qui est censé être la représentation des Palestiniens.
Formel et institutionnel, mais que vaut-il ? Celui que l'on écoute, que l'on regarde avec crainte et avec anxiété, c'est le Hamas, c'est pas l'autorité palestinienne. Donc, quand Monsieur Netanyahou disait il va éradiquer le Hamas, voir ce que ça signifie. Le grand perdant, c'est la paix. C'est la paix parce qu'on est en train de banaliser. Alors, le grand perdant, c'est d'abord les morts, hein, la famille des morts et les blessés. Mais ce que l'on voit, c'est se banaliser cette formule commune au conflit russo-ukrainien et au conflit israélo-palestinien. Il n'est pas question de négocier. Ça, c'est dans quatre bouches en même temps. Et c'est quelque chose qui peut inquiéter pour l'avenir de la paix.
Alors, si le gagnant à court terme, c'est Netanyahou, et le gagnant à un peu plus long terme, c'est le Hamas, ça n'incite guère à l'optimisme, Sylvie Kaufmann.
Non, alors, sur Netanyahou, peut-être qu'il est gagnant à court terme, mais je dirais vraiment malgré lui. En réalité, pourquoi est-ce que cette unanimité en Israël persiste ? C'est à cause du traumatisme du 7 octobre. C'est parce que ce qui a été commis le 7 octobre est vécu comme le pire pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait revenir le spectre de la Shoah. C'est vraiment, ça ramène les Israéliens bien à cette peur existentielle pour leur État. Donc, cette unanimité se fait derrière le leader, évidemment, qui est là, qui se trouve être là. Mais on voit bien en même temps que les gens souhaitent son départ à lui. Et je dois dire, et Benny Gantz aussi, par exemple, réclame des élections. Les Américains, maintenant, le sénateur Chuck Schumer a réclamé aussi des élections. Donc, lui-même, comme leader, est quand même assez fragilisé, je dirais. Mais il y a cet effet, effectivement. Moi, ce qui me rappelle un petit peu ce qui s'est passé le 11 septembre. Rappelez-vous que Joe Biden, au début, a demandé aux Israéliens, a dit, ne commettez pas, après, tout de suite après le 7 octobre, ne commettez pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et alors, il y a un symptôme que je trouve très intéressant et assez alarmant pour tout le monde. Il y a une interview dans Le Monde ce week-end d'un spécialiste des médias en Israël et qui explique, qui décrit la couverture de la guerre de Gaza par les médias israéliens. Et à quelques rares exceptions près, comme le quotidien Haaretz, par exemple, il y a cette unanimité qui est que on invisibilise les victimes palestiniennes, on ne veut pas voir, et cette absence de questionnement des médias israéliens. Or, Israël est une démocratie, comme les États-Unis sont une démocratie, et on a bien vu après le 11 septembre comment des médias remarquables, comme le New York Times, se sont laissés manipuler, enfumer et ont oublié leurs critères et leurs principes professionnels. Enfin, à cause de cette unanimité du peuple américain qu'il y avait après les attaques du 11 septembre. Donc, je trouve que c'est une leçon pour nous tous, à vrai dire, tout pays démocratique, de voir à quel point finalement notre liberté d'expression peut être fragilisée par ce genre d'attaque. Mais cette petite digression pour dire que ça n'est pas je ne pense pas que Netanyahou soit vainqueur de cette affaire, parce que quand il finira bien par partir.
À court terme.
Et à court terme, voilà. Et le début de solution commencera peut-être au moment où il partira.
Alors, est-ce que le début de solution peut aussi se trouver dans les institutions internationales? Alors, vous avez dit, je ne sais plus lequel d'entre vous, que pour l'instant, en tout cas, elles n'avaient pas du tout montré leur efficacité. Il y a quand même eu donc cette résolution qui a été votée à l'ONU. Il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui demande à ce qu'il y ait un embargo sur les armes à destination d'Israël. Il y a eu cette initiative de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice pour prévenir un risque de génocide dans la bande de Gaza. Lorraine Dujon, alors certes, ça n'a pas été suivi des faits, mais est-ce que ça ne montre pas quand même que ces institutions-là, elles existent et qu'elles sont utilisées au-delà des seuls Européens et Américains? C'est-à-dire qu'il y a aussi une globalisation de la diplomatie qui fait qu'on se sert aussi de ces institutions.
Alors, je crois que c'est...
J'essaie de trouver quelque chose d'un peu optimiste.
C'est une lecture que j'ai voulu faire, moi aussi, au moment où l'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice. De se dire, c'est formidable, le droit international n'est pas complètement mort, on ne pourra plus dire que les institutions internationales appartiennent aux Occidentaux. Mais à vrai dire, quelques mois plus tard, je n'arrive pas, moi, à avoir un espoir de ce côté-là. Je crois, au contraire, si vous voulez, que, en effet, on assiste à des recompositions internationales. Vous demandiez si le monde a changé. Ben oui, le monde a changé, mais malheureusement, il ne change pas du tout dans le bon sens. Et en plus, il y a surtout des effets, si vous voulez, non pas de rupture ou de tournant majeur. Le 7 octobre restera comme un jour sanglant, épouvantable. Mais en réalité, il y a des effets de continuité et d'empilement de tous les conflits depuis 10, voire 20 ans. Sylvie Kaufmann parlait du 11 septembre. Mais si on pense à cette succession, si vous voulez, Syrie, Ukraine, la petite incursion de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et maintenant Gaza, tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire que ce sont des conflits où ce sont les populations civiles qui payent le plus grand prix, ce sont des conflits où on voit très bien que l'utilisation de la technologie ne mène pas du tout à des guerres propres, ça mène à des guerres très sales, enfin on voit maintenant les bombardements qui ont été guidés par l'intelligence artificielle au mépris du décompte des civils qui pouvaient être être là et en faire les frais. Donc voilà, et maintenant la famine, donc on a la superposition en fait des différentes formes de guerre, les conflits anciens et les conflits modernes, avec ces guerres de l'information dont parle Sylvie aussi. Et quand même, qu'est-ce qui sort renforcé de ces 6 mois? C'est le fanatisme religieux, millénariste, nourri par des visions de fin du monde, et pas seulement dans l'islam, si vous voulez. Donc tout ça ne va pas dans le sens de la paix, c'est sûr.
Oui, permettez-moi de vous démolir un peu plus le moral.
Oh.
Quand vous parlez des institutions internationales, je voudrais juste faire 3 remarques. La première, c'est que vous savez que les résolutions du Conseil de sécurité, comme les ordonnances de la Cour internationale de justice, sont contraignantes. Bon, et qu'a dit Israël? Il dit, vous pouvez décider tout ce que vous voulez, de toute façon, nous, on ne suivra pas. Donc, il y a, et c'est un élément qu'on n'a pas suffisamment mis en évidence, une déclaration explicite, ce qui est rare dans la chronique onusienne, la remise en cause du déni de la nature contraignante des résolutions.
La Russie se gêne pas non plus.
Ah oui, mais elle a le veto, c'est différent. Elle a le droit juridique de ne pas être liée, ce qui est terrible, n'est-ce pas? Elle a le droit, j'ai fait un pléonasme. Le droit qui lui est reconnu, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Là, c'est quelqu'un auquel on ne reconnaît pas ce droit qui dit, mais moi, de toute façon, je suis le 6e membre permanent du Conseil de sécurité, je ne veux pas. Bon, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous regardez attentivement les textes, et notamment le texte de la dernière résolution, elle est contraignante, mais elle n'est assortie d'aucune sanction. Donc, si un État, Israël, en l'occurrence, ne respecte pas cette résolution, il n'y a aucune sanction contre. Donc, pourquoi voulez-vous que je me plie, puisque je ne serai pas sanctionné? C'est gagnant-gagnant dans cette affaire. Et je crois, troisième remarque que je voulais faire, c'est que derrière cette inefficacité, inefficience des Nations Unies, des institutions internationales, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en évidence, c'est que les guerres échappent de plus en plus à la logique de puissance et à la logique des grandes puissances. Tant que les guerres appartenaient à la logique de grandes puissances, ce qui était l'esprit de la Charte des Nations Unies de 1945 qui n'a pas été modifiée, eh bien effectivement, le jeu d'équilibre entre puissances pouvait agir comme frein, voire comme imposition de la paix. Aujourd'hui, de plus en plus, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, qu'il s'agisse de tous les conflits africains dont tout le monde se moque et personne ne parle, il y a eu 7 millions de morts au Congo depuis 25 ans, ça a aucune importance, c'est des Africains, ça fait rien. Bon, mais tous ces conflits-là échappent complètement aux logiques de puissance. Donc, par définition, les institutions internationales fabriquées au temps des grandes puissances n'ont plus aucune efficacité.
France Culture. L'esprit public. Hervé Gardette.
Nous ne manquerons pas de respect vis-à-vis de la décision de notre nation. Nous éviterons de la défier, d'agir contre sa volonté et de remettre en question ses choix. Pour nous, le 31 mars n'est pas une fin. Il s'agit d'un tournant.
Alors pour être tout à fait honnête, on ne s'attendait peut-être pas à ce que Recep Tayyip Erdogan accepte avec autant d'humilité la défaite de son camp au municipal en Turquie. Vous venez de l'entendre, son parti, l'AKP, a été battu dimanche dernier. Nous éviterons de nous entêter, d'agir contre la volonté nationale et de remettre en question le pouvoir de la nation, a donc déclaré celui qui dirige le pays depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis comme chef de l'État. Alors, on ne s'y attendait pas en raison de la dérive autoritaire du président turc. Le putsch manqué de 2016 a notamment contribué à éloigner la Turquie des standards démocratiques. Comme tous les autres autocrates, Erdogan semblait promis à n'engranger que des victoires lors de scrutins sans grande surprise, car plus ou moins verrouillés. Il n'y aurait donc pas de fatalité en la matière. Alors s'il y a un vaincu, c'est donc qu'il y a un vainqueur. Le Parti républicain du peuple, d'inspiration kémaliste, Mustafa Kemal Atatürk, le père de la nation, un parti arrivé en tête dans les 3 plus grandes villes du pays, est désormais majoritaire en nombre de voix. Le déclin de la démocratie est enfin terminé, a fanfaronné un de ses leaders, Ekrem İmamoğlu, le maire reconduit d'Istanbul. La jeunesse turque, en tout cas, a manifesté son attachement à la laïcité face à un président islamiste. Peut-on dire pour autant que ce scrutin signe le début de la fin pour Recep Tayyip Erdogan? Le président turc a surmonté bien d'autres tempêtes, faites dans le passé, comme par exemple les manifestations de Gezi en 2013. Surtout, son mandat présidentiel court jusqu'en 2028. Jusqu'à cette date, c'est lui qui va continuer d'incarner son pays et de présider aux destinées de la Turquie. Il va donc bien falloir faire avec. Mais pour commencer, Anne-Lorraine Bujon, cette défaite au municipal. Alors Erdogan, lui, il est président, il ne se présentait pas, mais c'est son parti. Et puis, il s'était investi dans cette campagne. Un an après sa réélection à la tête de la Turquie, est-ce que c'est un désaveu important pour le président turc?
Alors, ça a été une surprise pour nombre d'entre nous, vous l'avez dit. La victoire de l'opposition est très, très nette. Donc oui, c'est clairement une défaite pour Erdogan et pour son parti. Donc peut-être qu'on peut s'interroger jusqu'où est-ce que le parti et l'homme sont fusionnés ou pas. Mais je crois que derrière cette victoire très nette de l'opposition, il faut quand même faire attention aux effets d'optique et pas penser non plus que la table ait été renversée, là encore, du jour au lendemain. Parce que, dans le fond, depuis 20 ans que Erdogan construit son pouvoir, il peut compter sur une base électorale très solide qui lui est acquise, qui est acquise à ses idées nationalistes, islamistes, conservatrices. Et il n'a pas non plus réussi à réduire l'opposition libérale qui demeure, et notamment dans les grandes villes. Et donc là, je crois que le rapport de force est le même. Simplement, on voit davantage le rôle de l'opposition libérale. Ce qui me paraît très important, c'est que vous avez aussi rappelé qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2028. Et que donc, si c'est une défaite pour Erdogan, c'est pas forcément une défaite pour ses idées et pour l'erdoganisme. Et que la façon dont, si vous voulez, on a fait reculer les libertés, on a réduit au silence l'opposition civile, les juges, les journalistes, les universitaires, tout ça, si vous voulez, ça reste. On est dans un pays vraiment qui s'est beaucoup désinstitutionnalisé, où règne la corruption, le clientélisme, le népotisme. Et finalement, là, c'est une sanction pour le pouvoir, pour les gens qui dirigent le pays. Donc c'est un accès de dégagisme, mais ça ne veut pas dire un changement profond de l'humeur, pas nécessairement de l'humeur politique du pays. On pourrait comparer à ce qui s'est passé aux États-Unis en fait en 2020, parce que finalement Trump a été sanctionné pour sa très mauvaise gestion du pays et pendant le Covid. Biden est arrivé au pouvoir, mais on voit aujourd'hui que c'est pas parce qu'on avait défait Trump qu'on avait défait le Trumpisme.
Si sanctions il y a eu dans les urnes dimanche dernier, Thomas Gomard, est-ce que ça n'est quand même pas la preuve que la Turquie n'est peut-être pas aussi verrouillée, que le régime turc n'a peut-être pas la main mise, comme on l'imagine un peu d'ici, sur la société turque, et qu'il reste encore des espaces de liberté? La preuve, la majorité et le président ont dû reconnaître leur défaite.
Ce que vous voulez dire, c'est que Erdogan n'est pas capable d'organiser une opération électorale spéciale comme Vladimir Poutine, en fait. Donc ça montre effectivement une différence de nature assez profonde dans l'autoritarisme et une société civile en Turquie qui est beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui en Russie. Ça passe notamment effectivement par ces maires de grandes villes. Ça fait penser d'ailleurs au fait que l'émergence politique de Navalny en Russie était arrivée le moment où il avait fait 28% aux élections municipales de Moscou sans accès aux médias. Je ferme la parenthèse. Donc on est effectivement, ça c'est la première observation, ça reste un système plus ouvert, autoritaire néanmoins, ça a été rappelé. Je pense qu'il faut aussi rappeler deux choses. La première, c'est que cette élection intervient après la célébration du centenaire de la création de la République. Donc c'est une victoire c'est présenté comme une victoire des kémalistes. Et puis il y a une sorte un peu de...
Kémalisme, donc républicain, laïque.
Voilà, avec beaucoup de nuances évidemment, mais fondamentalement, la manifestation du fait que les élections produisent quelque chose en Turquie, à la différence d'autres régimes autoritaires. Il y a une sorte de, non pas de tragédie grecque, mais de petite tragédie turque qui s'est exprimée également, puisqu'il y a eu un parti nationaliste qui a émergé. Je rappelle que Erdogan avait eu comme mentor politique Erbakan, dont le fils a pris la tête de ce petit parti islamiste qui a fait 6% des voix.
Qui s'appelle le Nouveau Parti de la Prospérité.
Voilà, et qui, dont le dessein politique est précisément de venger son père. Voilà. Et donc ça, je pense que pour la suite, on est très focalisé sur le parti kémaliste, mais il faut aussi être attentif à l'attitude de ce nouveau parti vis-à-vis de l'AKP. Et puis le troisième point, c'est effectivement la perspective 2028. Moi, je serai effectivement en ligne avec ce qu'a exprimé Anne-Laurette. Je ne pense pas qu'il faille enterrer trop vite Erdogan, qui est un animal politique qui a su rebondir à de nombreuses reprises. Vous l'avez rappelé dans votre introduction. Il a 70 ans. Bon, il préparerait une nouvelle constitution. Donc, il aura probablement un certain espace avec les 4 ans sans élection d'ici 2028 pour pousser les choses. Donc, ça va être, à mon avis, effectivement... quelque chose à observer attentivement. Je note également qu'il y a une sorte de décrispation. Alors, est-ce lié à ces élections ? C'est un mouvement antérieur, mais une décrispation, je trouve, de la Turquie d'Erdogan vis-à-vis dans son rapport aux Européens et aux États-Unis, qui s'est notamment traduit par le fait que la Suède a fini par rentrer dans l'OTAN, qu'il y a un voyage à Washington qui est prévu pour le mois de mai, qu'il y a une tonalité quand même qui a changé vis-à-vis de l'Union Européenne, et probablement tonalité qui va être renforcée, puisque précisément les kémalistes insistent sur la nécessité d'avoir une relation plus apaisée avec l'Union Européenne que celle qui a pu être conduite par Erdogan depuis 2013.
Les kémalistes, dont un des leaders, donc, est le maire sortant d'Istanbul, qui a été reconduit, qui s'appelle Ekrem İmamoğlu, et qui a donc dit ceci dimanche soir: « Nous envoyons un message retentissant au monde entier. Le déclin de la démocratie est désormais terminé en Turquie. » Sylvie Kaufmann.
Alors, oui, moi, je verrais le... J'ai envie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide sur cette élection. Et ça fera un petit contrepoint à notre premier sujet qui était quand même très déprimant. Ce que je vois, c'est que ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que, bien sûr, ce sont des élections locales. Mais justement, dans un régime qui tient tous les leviers du pouvoir, qui est un régime autoritaire, il y a quand même... et on l'a vu dans une forme tout à fait différente en Pologne, il y a quand même, si la société se mobilise, si l'opposition arrive à constituer de nouvelles équipes plus dynamiques, plus en phase avec la société, il y a quand même moyen de riposter et de reprendre certains leviers du pouvoir. Donc là, ce sont les leviers municipaux. Et c'est important parce que d'abord, non seulement ce parti, le CHP, prend les trois plus grandes villes, mais...
Alors CHP, je rappelle, hein, Parti Républicain du Peuple, c'est ce voilà, qu'on dit, les kémalistes.
Voilà. Laïque, et donc reprend... garde, enfin, à ces trois plus grandes villes de Turquie, donc Istanbul, Ankara et Izmir. Je reviendrai sur Istanbul, mais fait des poussées dans des territoires qui étaient des bastions de l'AKP, du parti d'Erdogan, y compris en Anatolie. Donc il sort il déborde du ghetto côtier, si je peux dire, des ghettos côtiers. Et donc ça, c'était vraiment, je crois, un fait politique important. Et puis il y a Istanbul. Et Istanbul, c'est capital, sans mauvais jeu de mots. D'abord, c'est une défaite personnelle pour Erdogan parce qu'il avait fait... quand il a été réélu au mois de mai, il y a donc moins d'un an, il a dit Istanbul sera la reconquête d'Istanbul.
C'est ça, il en a été le maire.
C'est sa ville natale, il en a été maire dans les années 90. C'est perçu en Turquie comme le marchepied vers le leadership national. Donc, et on a maintenant ce maire qui a été réélu très très confortablement. İmamoğlu, qui apparaît comme maintenant une alternative tout à fait plausible pour 2028. Il a 52 ans et Erdogan ne prépare pas sa succession. Alors Thomas a parlé de ce projet de réforme constitutionnelle qui pourrait peut-être lui permettre de se faire... Enfin, puisqu'il n'a pas le droit normalement de se représenter. Mais je crois que maintenant, il est quand même trop affaibli personnellement pour essayer de pousser cette réforme constitutionnelle. Donc on a quand même un changement, je crois, et puis il n'aura plus la manne de toutes ces municipalités, parce que le système Erdogan, c'est quand même le clientélisme avec la distribution de cadeaux pris sur la bête dans ces villes que contrôlait l'AKP. Il n'aura plus cette ressource dans beaucoup de villes. Donc il va être quand même privé de certains leviers. Et puis, juste pour terminer, je voudrais rappeler que la principale raison de son échec et de l'échec de l'AKP, c'est quand même la situation économique.
Très forte inflation.
Une inflation qui frise les 60% encore, une baisse du pouvoir d'achat terrible et qui explique en grande partie la désaffection des électeurs de l'AKP. Et ça, il va falloir qu'il s'y attelle vraiment de manière prioritaire. Donc je pense que ça va pas mal l'occuper.
Alors forcément, Bertrand Badi, on est tenté de voir dans cette victoire de l'opposition la preuve d'un ancrage profond de l'héritage kémaliste, notamment de la laïcité. Mais j'ai l'impression que ces références au kémalisme, mais peut-être que je me trompe, ne vous satisfont pas totalement.
Ça fait un certain temps que Mustafa Kemal est mort, hein, et que le kémalisme correspondait à une époque qui n'est plus l'époque actuelle. Mais je voudrais d'abord mettre très en exergue quelque chose d'absolument éblouissant, qui est la victoire de la culture démocratique turque. Pensez que la participation électorale, en légère baisse par rapport aux précédentes consultations, a frôlé les 80%. Mais quelle leçon pour nous, vieux Européens, qui n'arrivons même pas à passer maintenant la barre des 50%. Je veux dire que la Turquie, la société turque, je parle de la société turque, est probablement un modèle de civisme et de culture démocratique, malgré effectivement toutes les difficultés, les aspérités autoritaires que vous décriviez en long et en large tout à l'heure. Ça, il faut l'avoir en tête. Quelle leçon pouvons-nous donner à la Turquie quand on voit une telle mobilisation, et une mobilisation qui s'est traduite par la prise en main de son destin. Et effectivement, j'arrive à mon deuxième point, et pour faire écho directement à ce que vous disiez, cette victoire de l'opposition. En 2019 et en 2015, les deux précédentes consultations législatives et municipales, déjà Erdogan a eu à souffrir. Là, c'est plus que de la souffrance. Et ça veut dire quoi, ça? Avant de se lancer dans les bras de Mustafa Kemal, ça veut dire que nous assistons à la montée d'une nouvelle génération, qui évidemment n'a pas connu le kémalisme, ni même le post-kémalisme, qui n'a pas été très glorieux. Hein, le post-kémalisme, dans les années 50, en Turquie, ça donnait au mieux des présidents du conseil médiocres et au pire des généraux qui, tous les 10 ans, revenaient au pouvoir par un coup d'État. Donc c'est pas un modèle, n'est-ce pas? Cette nouvelle génération, je crois pas qu'elle soit kémaliste. Cette nouvelle génération, elle est mondialisée.
Vous parlez de nouvelle génération, vous parlez des électeurs ou des nouveaux maires?
Des électeurs, du changement de la population turque, et qui fait que le corps électoral, dans un pays qui est jeune, qui a une très forte poussée démographique, se traduit par un renouvellement de la perception, du sens du politique, de la culture du politique, et qui est à la recherche de l'invention de nouveaux modèles.
Et d'après certaines études, par un moindre attachement aussi à la religion, ce qui est quand même assez
étonnant. Tout à fait, mais ça fait partie de la mondialisation. Cette pente vers la sécularisation fait partie de cette ouverture vers l'extérieur. Vous retrouvez la même chose en Iran, dans la société iranienne, une demande effectivement de, j'aime pas dire laïcité, parce que c'est tellement galvaudé, notamment ici en France, que je dirais plus prudemment sécularisation. Maintenant, faut faire attention à ce qu'est cette victoire du CHP ou SHP. Le CHP, c'est le vieux parti kémaliste, mais vous parlez de ses leaders, Mansour Yavaş, qui est le maire d'Ankara, ou Emamoglu, qui est le maire d'Istanbul, sont des personnes qui affichent leur religion, qui sont des pratiquants, qui n'a rien à voir avec ce laïcisme effectivement très dur des anciens dirigeants du CHP. Il y a un nouveau rapport à la religion qui est en même temps fait d'une religion privatisée mais assumée et d'une religion culturalisée plus que politisée. C'est très important tout ça pour voir effectivement cette nouvelle pente. Il y a d'autres leçons à tirer de tout cela. C'est effectivement une polarisation, c'est épais à Képé. Képé ne s'est pas totalement effondré, hein, a perdu finalement 4 points, 5 points par rapport aux précédentes consultations. Képé,
je rappelle, hein, c'est le parti au pouvoir, c'est voilà, le parti d'Erdogan.
Exactement. Mais avec un AKP, à mon avis, qui va changer, c'est en tout cas ce qu'a annoncé Erdogan, et je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça, et un CEP qui est en train également de changer, et puis on ne l'a pas suffisamment dit. Alors effectivement, comme le disait Thomas, la montée du Refah Party, qui est l'ancien parti de Najmeddin Erbakan et qui est repris par son fils, Fethi Erbakan, c'est intéressant parce que il commence à y avoir une contestation islamiste d'Erdogan derrière tout ça.
Entre
et notamment
nous,
des positions compliquées sur Israël, qu'on condamne tout en continuant à commercer avec Israël. Tout ça, c'est compliqué. Et puis la défaite, personne ne l'a signalé, ça me paraît important, du MEP, c'est-à-dire un parti nationaliste laïciste, c'est les vieux loups gris la Turquie, qui sont complètement marginalisés, et une montée de DEM, du parti kurde, qui a quand même emporté 3 municipalités importantes, Diyarbakir, la très grande ville Diyarbakir, Van et Mardin, c'est pas rien. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce qu'on va les laisser gouverner. Autant je pense qu'on ne s'attaquera pas à Yavosh ou à Emomolu, autant je suis pas sûr qu'on ne s'attaquera pas aux maires de ces villes kurdes. Pour conclure, je voudrais quand même dire que il y a là un sang neuf qui est en train d'irriguer la Turquie, qu'il faut prendre en compte. Il faut arrêter de se moquer de ce pays. Comme ça, c'est les blagues pas chères, hein, sur le sultan, sur etc. Bon, enfin, je ne donnerai pas de nom. Mais
bon, on a bien fait de pas utiliser cette
oui,
terme aujourd'hui.
Oui, parce que c'est un pays. Moi, je trouve que c'est un modèle pour la démocratie quand on voit ce qu'on en fait dans le populisme européen, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest.
Modèle pour la démocratie et pente vers la sécularisation. Je vous ai vu réagir quand Bertrand Badie a eu ces termes à Anne-Lorraine Bujon.
Mais oui, parce que alors, là où on est tout à fait d'accord, c'est que je pense que l'évolution de la situation politique en Turquie est tout à fait intéressante, voire passionnante, et qu'elle nous dit beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et qu'effectivement le kémalisme est loin derrière nous. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, et ça n'est pas sans lien avec cette question de sécularisation, c'est les femmes. C'est le rôle des femmes ici dans l'électorat, et pour permettre à l'opposition libérale de remporter de grandes victoires, avec, je crois, 11 maires femmes aussi, dans un pays que l'on dit, par ailleurs, très conservateur et quand même très religieux. Donc, Sylvie parlait de verre à moitié plein. Je suis d'accord, il y a une vitalité démocratique et on voit que là, encore, dans un pays musulman, les mouvements pour l'égalité homme-femme restent aujourd'hui vraiment au cœur du moteur démocratique, si vous voulez, là où l'idée démocratique est encore vivante, les femmes, les mouvements de femmes, les mouvements pour l'égalité des femmes jouent un énorme rôle. Donc on l'a vu bien sûr en Iran avec le mouvement Femme, Vie, Liberté, mais c'était vrai en Tunisie aussi, si vous voulez. Depuis les printemps arabes, on voit que les revendications d'égalité homme-femme se fusionnent avec ce qui reste d'une idée démocratique vivante. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour la sécularisation, oui, je pense qu'on est dans une situation quand même très paradoxal. On a rappelé le succès de ce parti islamiste plus dur que celui d'Erdogan.
Succès, c'est 6%, un peu plus de 6%. Ouais. Il partait, c'est bien, oui. Voilà. Oui. Mais c'est pas non plus un triomphe.
Mais moi, il me semble quand même que on assiste en Turquie comme ailleurs dans le monde à une sorte d'alliance de fait entre le conservatisme religieux et le nationalisme, et que ça, c'est plutôt une recette du succès pour un certain nombre de dirigeants à travers le monde aujourd'hui. Donc, il y a une sécularisation de la société peut-être, mais il y a une revendication d'un pouvoir nationaliste en accord avec des idées de conservatisme religieux.
Bon, vu ce que vous venez tous de dire, on a en tout cas grandement intérêt à ne pas s'aliéner la Turquie. Quand je dis nous, c'est nous les Européens, Thomas Gomard.
Ouais, ça c'est certain.
D'ailleurs, peut-être en contradiction avec Bertrand, je pense pas du tout. Je pense, je ne connais personne qui se moque de la Turquie.
Moi, je suis plein de nous. Ouais, mais autour de cette table, voilà. Ça peut vous rassurer. Ah, hein. Bien. Mais non, bien entendu. Mais je
pense. Enfin, c'est un point.
Rappelez-vous du temps où la Turquie était candidate officielle à l'Union européenne, les sarcasmes racistes qu'on a pu sortir à ce moment-là.
Hein. Ouais. J'étais pas encore.
N'étiez pas né.
Voilà. Non, plus peut-être pour ajouter des éléments conjoncturels d'explication à la défaite d'Erdogan, Sylvie Kaufmann rappelait la désastreuse situation économique. Il y a deux autres éléments, à mon avis, à rappeler. La gestion du séisme de 2023, qui a été très reprochée, notamment qui a mis en lumière les effets de corruption, c'est-à-dire qu'il y a tout un système pour le BTP, les grands bâtiments en Turquie, qui est très corrompu. Et puis également la question de la gestion des réfugiés syriens, qui pose un certain nombre de difficultés et suscite là aussi des situations de rejet, Erdogan ayant encouragé l'arrivée des réfugiés syriens, ce qui a aussi beaucoup joué dans sa relation ensuite avec l'Union européenne. Et puis effectivement, le deuxième point, moi je serais plus nuancé sur l'aspect sécularisation, parce que les études qu'on mentionne, en fait, ce sont des sondages sur des petits échantillons. Donc, autant je prends l'argument sur la mondialisation, l'entrée complète de la Turquie dans la mondialisation, mais sur le rapport au fait religieux, je pense qu'il faut essayer d'être faire preuve de plus de discernement, parce que j'observe néanmoins que dans son rapport avec la diaspora turque en Turquie, Erdogan ne cesse d'utiliser des termes religieux pour la mobiliser, et pour la mobiliser dans un sens, on va dire, souvent assez vif dans sa contestation de ce qu'on pourrait appeler, comment les définir, autre sujet, les valeurs européennes. Donc je serais là-dessus aussi peut-être plus nuancé en disant oui, il y a une évolution avec l'entrée de la Turquie de plein pied dans la mondialisation, mais aussi un recours à la religion qui, dans son exercice du pouvoir en interne, est présent depuis le départ et également très présent dans ses relations extérieures.
Dans l'autre conflit du moment qui nous préoccupe directement, Sylvie Kaufmann, qui est celui entre la Russie et l'Ukraine, on a besoin de la Turquie, de la Turquie d'Erdogan, c'est-à-dire la façon dont il gère cette question aujourd'hui.
Oui, en particulier sur la mer Noire, hein, ses capitales, où l'Ukraine essaye, avec certains succès d'ailleurs, de contrer les forces russes. La Turquie, là aussi, n'a pas joué un jeu très, très clair et très net dans ce conflit et comme dans d'autres. Mais je pense pas que pour l'instant ce résultat électoral va avoir un impact majeur sur la politique étrangère d'Erdogan. Je pense qu'il va probablement en effet continuer son rapprochement avec les États-Unis, peut-être essayer de détendre les relations avec l'Europe, mais je vois pas d'impact majeur. Il reste la question kurde que Bertrand mentionné tout à l'heure, et notamment est-ce que Erdogan va essayer de réagir en justement prenant des initiatives nouvelles de répression sur les Kurdes. Mais il y a eu un incident qui est assez éclairant après cette élection, avant justement cette localité du sud-est où le maire avait, ou un maire pro-kurde avait été élu, et l'AKP a voulu annuler l'élection, et ça a été, la réaction de la population a été immédiate et très violente, il y a eu des émeutes, et donc le pouvoir a été obligé de rétablir le maire kurde qui avait été élu. Donc on voit que là aussi ça bouge et il se passe des choses.
La dernière minute est offerte cette semaine à Bertrand Badi.
Oui, je pense qu'il faut être très prudent sur le retour entre guillemets des États, de la Turquie dans l'espace occidental. Toute la diplomatie d'Erdogan a reposé sur cette idée que la Turquie est d'abord une puissance régionale. Et quand on veut s'affirmer comme puissance régionale, le patronage est tout à fait secondaire, même plutôt gênant. Donc il ne faut pas s'attendre à des bouleversements, même si c'est vrai qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux à force de jouer de l'union libre diplomatique et d'être bien et mal en même temps avec tout le monde, que ça l'a conduit, notamment dans rapport avec Israël, à des positions difficilement compréhensibles par son électorat, qui l'a peut-être sanctionné sur ce point.
Merci Bertrand Badi, Anne-Lorraine Bujon, Sylvie Kaufmann et Thomas Gomard d'avoir débattu aujourd'hui dans cet esprit public, préparé comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisé aujourd'hui par Sam Bakiast. À la prise de son, il y avait Anthony Thomasson.
France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture et la Comédie Française présentent La Thébaïde ou Les Frères Ennemis. Les deux frères, Éthéocle et Polynice, se disputent avec fureur le trône de Thèbes. Créon, leur oncle, attise la haine entre les deux frères tandis que leur mère Jocaste et leur sœur Antigone ne parviennent pas à les apaiser.
Qu'ils parlent, qu'ils s'expliquent et nous laissent en repos.
Quoi ? Faut-il davantage expliquer mes pensées ?
La Thébaïde ou Les Frères Ennemis, réalisé par Louise Loubrieux, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente la Grande Dictée des Jeux, organisée par le Festival du Livre de Paris en partenariat avec France Télévisions. Vendredi 12 avril à partir de 14h sur le Champ de Mars, devenez des athlètes de l'orthographe en participant à l'événement. Amoureux des mots, écoliers, étudiants, seuls, en famille ou entre amis, parviendrez-vous à réaliser un sans faute ? Plus d'infos et inscriptions, franceculture.fr et festivaldulivredeparis.fr.
France Culture, il est pile midi, l'heure de retrouver les bonnes choses en compagnie de Caroline Brouet. Caroline qui est aujourd'hui en compagnie de la romancière Muriel Barbery.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Muriel Barbery n'est pas cuisinière de métier, elle est romancière. Mais manger est pour elle un des plus grands plaisirs de la vie et ce plaisir se retrouve dans ses romans. De fait, on mange beaucoup dans ses livres, on se régale même, on déguste. Depuis Une gourmandise, le premier qui racontait la vie d'un critique gastronomique, jusqu'à Une heure de ferveur sur l'histoire d'un marchand d'art japonais père d'une fille française qu'il n'a jamais connue,